1901, place aux associations.
Et à 1901 aujourd'hui, le cercle du bridge chalonnais. Bonjour à tous.
Bonjour, donc le grand cercle de bridge chalonnais avec monsieur Patrick Bogacki qui est de la fédération, enfin du...
Président de la fédération.
Président de la fédération.
Président honoraire.
Honoraire de la fédération. Et monsieur Christian Claude Bernard qui est président du grand cercle de bridge chalonnais.
Et du comité de Champagne pour un temps.
Voilà, parce qu'il y a aussi des comités régionaux, 29 en France et dans les drones, enfin Dom-Tom si on préfère. Voilà, donc on vous reçoit aujourd'hui pour présenter un petit peu votre association. Alors déjà, pourriez-vous nous dire un petit peu de quand elle date
C'est une association qui est plus que centenaire maintenant, puisqu'elle est au journal officiel du 2 septembre 1923. Donc vous tenez bien qu'on a fait une opération en 2023. Et donc c'est le Grand Cercle qui, au démarrage, avait une activité de lecture, de rencontre des hommes, je précise, à l'époque, et qui avait aussi comme autre activité les jeux de société. Bon, je ne vais pas dire que c'était un tripot, c'était sûrement pas ça, mais c'était quand même...
Et ça s'appelait déjà Grand Cercle de
Grand
Bridge.
Cercle, mais comme non, un grand cercle. Cercle. Voilà, comme voilà. Un cercle.
Pas bridge spécifiquement.
Et donc créé par les autorités, enfin les grands noms locaux, Grand-Île, qui me vient en mémoire.
Un petit club un peu élitiste, un peu fermé.
Au départ, oui.
Avec des industriels, Champagne-Perrier.
Champagne-Perrier, notamment, voilà. Monsieur Pitois à l'époque.
L'entre-soi chalonnais.
Ah. Chalonnais, mais je pense que c'était reproduit dans d'autres,
oui.
Pratiquement. Ça a commencé comme ça.
Et le bridge, ça s'est appelé Grand Cercle de Bridge. Le bridge est devenu l'activité principale à quel moment?
Je pense après-guerre.
Après-guerre.
C'est-à-dire, enfin, oui, donc...
dans les années 50.
Voilà, je pense qu'avant, c'était resté quand même une opération... lecture, jeux de société, rencontre entre guillemets des hommes.
Des hommes.
À l'époque, oui.
Et pour la fédération régionale, enfin française, la FFB.
La fédération française.
Française de bridge.
Elle est née un petit peu plus tard que le club de Chalon, puisqu'elle a démarré son activité en 1933, donc 10 ans de plus jeune que le club de Chalon. Aujourd'hui, la fédération française de bridge. C'est à peu près un peu moins de 80 000 joueurs.
Oui.
Et
de licenciés FFB, oui.
Des licenciés, oui. Et en France, on considère qu'il y a un million et demi de joueurs qui s'amusent dans leur salon, dans leur...
Voilà. Mais des licenciés, on en a, si je peux vous donner, j'ai vu presque 77 000 et il y a 1050 clubs en France de bridge,
oui.
Officiels.
Alors quand je dis 80 000, c'est dans la mesure où la première année, on offre toujours la licence, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont pas comptabilisés dans les 77 000, mais qui sont présents dans les clubs au quotidien.
Alors, juste pour faire un peu le point, au départ, le fameux cercle, là, Grand Cercle Chalonnais, était réservé aux hommes. Et pour la Fédération Française de Bridge, quand elle a été créée, le bridge était encore réservé aux hommes. Enfin,
Non, je crois que ça a été ouvert assez rapidement.
Assez rapidement?
Disons que ça restait quand même dans la proximité des hommes qui étaient décrits par le président.
D'accord.
Du club de Chalon, mais... Non, ça a été assez rapidement ouvert aux dames.
Pour le jeu, parce que là, on en parlait hors antenne avant l'émission, si j'ai bien compris, c'est seulement dans les années 60 que les femmes ont été autorisées à jouer, vraiment.
1968, pour être exact.
Ouais, année riche en événements.
Riche en événements à l'époque. Je ne vais pas dire que j'étais sur les barricades, mais enfin, à l'époque, j'étais de ce côté-là.
C'est bien. Je vous félicite.
Et qu'est-ce qui s'est passé en 68, alors, pour justifier l'accès des femmes au bridge?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une évolution Je pense que c'était lié quand même aux événements de 68, oui. Où là, manifestement, il y a eu une prise de conscience, peut-être dans tous les milieux, que bah, les femmes, elles devaient participer autant que les hommes dans toutes les activités. Oui. Donc je pense que c'était ça qui a été le déclencheur.
Parce qu'au départ, on parlait de l'accès aux femmes aux cités universitaires, parce qu'on a dit que c'était une des motivations de mai 68. Donc ça s'est étendu à beaucoup de...
Vous avez des préoccupations complètement différentes. Oui, enfin, moi je pense que c'est une évolution de société, et qu'effectivement, pendant longtemps, les femmes ont été écartées de plein de choses, hein, y compris et du tout. Vote jusqu'en 44, hein, enfin 45.
Absolument.
Donc et là, ça... c'est une évolution, elles ont accès au bridge, et quelles sont leurs performances au bridge? Est-ce qu'elles sont bonnes, les femmes en...
Excellentes. Elles ont glané bon nombre de titres de championnes d'Europe, championnes du monde, pour les femmes qu'on va qualifier d'adultes. Mm-hmm. Et puis nos jeunes femmes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui jouent au bridge, elles sont championnes d'Europe, du monde, des moins de 31 ans, voire et aussi des moins de 21 ans. Enfin, on a de très très bonnes équipes de jeunes, dont des équipes de femmes.
Comme quoi, c'était bien de les faire rentrer dans le cercle.
Exactement. Et la Fédération française de bridge est la première d'Europe et la deuxième mondiale.
En termes de licenciés.
Alors, on était à 100 000 licenciés avant le Covid. On est tombé à un peu en dessous de 70 000. On a récupéré un peu de...
Il y a eu tant de monde que ça dans les joueurs de bridge. Ouais.
Pas forcément, mais c'est les gens avaient peur. Hein. Puis les clubs ne voulaient pas forcément prendre trop de responsabilités à cet égard. Donc il y a eu un peu une déperdition. Et le bridge la redémarre très fort, en particulier grâce au bridge virtuel. Parce qu'on joue beaucoup maintenant sur Internet. Et on est la deuxième mondiale derrière les États-Unis. Ce que je dis, c'est faux. Puisqu'en fait, la Chine déclare 40 000 joueurs. Et en fait, ils sont plus près de 4 millions que de 40 000.
Et alors pourquoi ils en déclarent 40 000 ?
Parce qu'il y a des droits...
Ah !
Il y a des cotisations à payer par joueur.
Je pensais que c'était le jeu de Go qui était le plus...
Non, pas du tout. Parce que maintenant, il y a des agences de développement du bridge dans toutes les régions chinoises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, je vais être très bref, en Chine, il y a... 4 heures dans l'emploi du temps des jeunes qui est consacré à des activités ludiques. Alors, c'est les échecs chinoises.
Dès l'école.
Le jeu de Go. Oh, oui. Et Deng Xiaoping a introduit le bridge. C'est assez récent. Okay. Mais il faut savoir qu'avec le bridge en Chine, on obtenait des visas pour aller faire des tournois internationaux.
Ah.
Alors qu'il n'y a pas de tournois internationaux de Go ou d'échecs chinoises. Donc, il y a une afflux
de... Oui, j'imagine que c'est une motivation.
De circonstances qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à 4 millions. Et comme c'est la France qui est aujourd'hui présidente de la Fédération mondiale, on va essayer de faire apparaître les vrais chiffres.
Oui, parce que du coup, la Fédération aura plus de rentrées d'argent.
Voilà.
Ce qui est quand même important pour organiser. Alors,
pour assurer le développement du jeu.
Du jeu. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le jeu de bridge. En quoi consiste un jeu de levée? Ça se joue à 4, équipes de 2, c'est
deux
ça?
Deux équipes de 2, absolument.
52 cartes. Et je m'arrête là parce que j'en sais pas plus.
Ça s'arrête là.
Je vais laisser la parole à Patrick parce que c'est plus technique là.
Enfin bon, juste pour faire comprendre aux auditeurs, auditrices, un petit peu le principe.
Alors effectivement, c'est... Contrairement aux échecs, on a un partenaire et on joue contre deux adversaires, ce qui implique beaucoup de vertus dans le bridge, puisque on est obligé de respecter à la fois son partenaire et bien entendu ses adversaires. Le jeu consiste effectivement à faire des levées, à déterminer par un langage codifié, puisqu'on appelle les enchères, à déterminer quel est le contrat maximum que l'on peut dégager de nos deux mains en face de son partenaire. Et une fois qu'on a atteint un niveau d'enchère tel qu'elle s'arrête, eh bien, celui qui a produit l'enchère la plus élevée joue le contrat, et les adversaires sont là pour essayer de faire chuter le contrat. Et donc il y a tout un système de cotation après de points qui dépendent de beaucoup de choses. Du contrat, de la couleur, parce que Il y a des positions différentes de jeu en fonction de ce qu'on appelle la vulnérabilité ou pas. Enfin, ça devient
assez technique. Voilà, ça devient technique, oui. Alors, oui. Pour rassurer les auditeurs, est-ce que c'est très... Par rapport à un jeu de tarot ou...
Est-ce qu'il y a des enjeux, déjà?
Alors, en ce qui concerne le jeu de bridge, c'est le jeu de cartes le plus abouti. C'est-à-dire qu'il... Quand vous regardez... Moi, je suis un joueur de cartes invétéré. J'ai été baigné dedans, comme on disait.
Vous avez joué à la bataille, à la belote, voilà. Au tarot.
Bataille, belote, tarot, rami.
Ah,
le
rami, oui.
J'en passe, hein, parce qu'il y a énormément de jeux de cartes. Et celui-ci, c'est le plus abouti. C'est-à-dire que, en fait, vous retrouvez pratiquement, dans le jeu de bridge, tout ce que vous pourriez faire à la belote ou au tarot, par exemple. Mais... avec une connotation beaucoup plus... Comment je pourrais dire ? C'est vraiment un jeu de communication qui intègre... Alors, par rapport à tous les autres jeux, vous avez, on en a parlé, vous avez une équipe. Mmh. Et vous jouez en équipe.
Bah, au tarot aussi. Et,
pas à quatre. Alors là, je veux pas trop rentrer dans le détail. Pour moi, le tarot, c'est à quatre, c'est pas à cinq. Donc là, il n'y a pas d'équipe. Il y a trois contre un.
D'accord.
Bah, ça, c'est...
Non, mais vous avez sans doute raison. Je croyais que c'était en équipe, mais non, alors. Bon.
Non, c'est pas tout à fait en équipe. Alors que là, vous avez vraiment une équipe, il faut communiquer, il faut se comprendre. Et puis bon, l'autre équipe, elle n'est pas là pour vous laisser faire.
Donc c'est une rivalité quand même.
Voilà. Donc en fait, vous avez dans la première phase d'un jeu, la première phase, c'est de trouver le meilleur contrat dans l'équipe, mais les autres, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils vont intervenir et pour essayer de perturber les enchères, pour essayer de tromper éventuellement
l'adversaire. C'est le principe. On veut gagner. Quoi.
Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est tout l'intérêt du bridge, ce qui n'existe pas dans les autres jeux, ça.
D'accord.
À la belote, c'est pas tout à fait pareil. Il y aurait, de mon point de vue, enfin, en tous les cas, c'est plus frustre.
Oui,
Par exemple, je parlais de la belote bridgée. Quand j'en parle, personne... je dois avoir un certain âge, moi, parce que tout le monde me regarde avec des yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, c'est un peu, pas l'ancêtre, mais une simplification...
Du bridge. Oui, parce que j'ai vu que le bridge est apparu au début du 19e, ça viendrait d'Angleterre, enfin c'est...
Bon, ça date de bien plus longtemps.
Oui, avant, mais là vraiment ça s'est développé...
L'origine du bridge, c'est le whist.
Oui, voilà, c'est ça.
Qui était un jeu où on distribue deux cartes et il faut dire combien on va faire de levée avec deux cartes ou combien on va faire de levée dans une distribution de trois cartes.
Ça venait de là.
Donc ça c'est le béaba du bridge. Et ce sont les Anglais, c'est pour ça qu'on dit que ça a démarré en Angleterre, ce sont les Anglais qui ont codifié le jeu.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on dit que ça vient de d'Angleterre, alors que ça vient plutôt du Moyen-Orient.
Oui, j'ai vu que ça venait du Moyen-Orient. Ça j'ai vu, mais bon, disons pour simplifier.
Alors, une question qui a trait un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure, 4 millions de joueurs de bridge en Chine, ça interpelle quelque part. Qu'est-ce qui fait que le bridge est intégré dans un système éducatif, comme le système chinois? Est-ce qu'il a pour conséquence de développer des capacités particulières au sein des jeunes, c'est-à-dire capacité de communication, voire développement de facultés intellectuelles?
Exactement. Oui. D'ailleurs, on essaie de pratiquer ce que la Pologne a développé il y a quelques années.
Oui.
Ce qu'on développe
et qui l'intègre également dans le système éducatif.
On met le bridge en place dans les collèges. Et donc, on a pour cela formé des professeurs de mathématiques. Et ces professeurs de mathématiques, aujourd'hui, il y en a un petit millier de professeurs de mathématiques que la Fédération française de bridge a formés. Et tout ça est parti d'expériences qui ont été conduites par quelques professeurs de mathématiques où ils ont mis en place des classes dans lesquelles les mathématiques étaient adossées un peu au bridge et des classes où il n'y avait pas de bridge.
Et ils ont fait une étude comparative.
Et les résultats ont été plus que probants. Ce qui fait que ces résultats ont été un peu développés. On a poursuivi cette étude. Et... on a convaincu un certain nombre de personnes au ministère de l'Éducation nationale, ce qui nous a donné un agrément et qui aujourd'hui...
Oui, vous avez l'agrément éducation populaire avec l'éducation nationale. Donc vous rentrez dans les établissements scolaires sans... Enfin, Quand ils veulent.
Quand ils veulent, bien sûr.
Vous avez raison. C'est-à-dire qu'un fort en maths a plus de chances d'être un bon joueur de bridge par rapport à quelqu'un qui aura des difficultés.
Ou un joueur de bridge peut s'améliorer en maths.
Et réciproquement.
Et réciproquement.
Oui.
Un bon joueur de bridge
peut s'améliorer en mathématiques.
Voilà. S'améliore en mathématiques lorsqu'on est dans les petites classes, oui. c'est clair. Hein.
Bah, c'est aussi concentration, je pense. On parle aussi de facilité de calcul mental.
Exactement.
Alors ça, j'ai regardé un petit peu parce que voilà.
C'est tout à fait exact.
Et oui. Donc, c'est vrai que ça peut aider les jeunes à développer des compétences qui n'ont pas développé vraiment, et puis ça favorise l'apprentissage des mathématiques.
Exactement. Oui. Plus les vertus qui y sont associées, qu'on a déjà évoquées précédemment, c'est le respect de l'autre et le travail en équipe. Ce qu'on ne fait pas, en fait, dans les petites classes de l'éducation.
Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est monsieur... Enfin, Alain a devancé mes questions, puisque c'était une de mes questions.
Avec mes excuses.
Et pas du tout, c'est bien. De toute façon, j'allais y venir par rapport aux compétences développées. Et sur Chalon, par exemple, est-ce que vous avez des interventions dans des établissements scolaires ou des profs formés, justement? Est-ce que ça fait partie de...
Ça fait partie de évidemment de nos objectifs. Nous avons quand même actuellement une classe de Chalon, c'est Prieur de la Marne, qui s'est intéressée. Et
là, c'est en primaire. C'est
en primaire, oui.
Prieur de la Marne, c'est une école.
Absolument. Ouais. Et donc, on a une opération qui a démarré. Maintenant, bon, on attend un peu les résultats sur un certain nombre de classes, je crois que sur le... Et puis, nous avons une opération qui est prévue le 14 novembre. Qui, elle, est une initiation qui sera donnée à Saint-Étienne.
Alors, oui, j'ai vu, Collège Saint-Étienne, journée porte ouverte, vendredi 14 novembre, je me permets de reprendre,
je vous en prie.
Puisque vous m'avez confié l'affiche, de 17 à 20 heures, découverte du bridge, ouvert à tout le monde ou juste aux parents d'élèves de Saint-Étienne? Non, tout le monde peut venir?
A priori, je pense que ce sont les élèves de Saint-Étienne.
D'accord. Donc c'est pour...
Parce que bon, l'entrée des collèges et lycées est quand même
oui.
réglementée.
Oui, bah oui, surtout là, ouais. Plan Vigipirate oblige.
Ce que vous souleviez quand même à l'entrée, parce que tous les moyens existent pour pouvoir rentrer le bridge dans les écoles, mais ça dépend au départ du directeur.
Oui, de la volonté du chef d'établissement.
Voilà. S'il n'y a pas de volonté, on aura du mal à... Or, actuellement, on en est à deux expériences, enfin au moins une, qui a démarré, et celle-ci, donc à Saint-Étienne.
D'accord. Ben on remettra ça pour les auditeurs auditrices, on remettra l'info sur le site quand on mettra le podcast la semaine prochaine.
Je vous en remercie.
On remettra ces dates. Je propose une petite coupure musicale.
Je propose Ben Harper.
Tu proposes Ben Harper.
Ça vous va?
Très bien.
Très bien.
Behind all of your tears, there's a smile. Behind all of the rain, there's sunshine miles and miles. Oh, everything. Everything to me, everything to me. The colors of your garden, they're yellow, blue, green. And the sound of your sweet voice, it's better. Everything to me, everything to me. In the morning, when
everything to me. Everything to me. Oh, everything, everything. You mean everything. You mean everything. Everything to me. Everything to me. Everything to me. Everything to me.
Voilà, donc nous avons écouté Ben Harper. Nous sommes toujours sur Radio Mono dans l'émission 1901 consacrée aux associations et nous recevons Monsieur Christian-Claude Bernard, président du Grand Cercle de Bridge Chalonnais, et Monsieur Patrick Bogaki, président honoraire de la Fédération française de Bridge. Alors on avait arrêté, là on s'était arrêté sur les compétences développées par le fait de jouer au bridge, par le bridge. Donc on parlait de concentration, on parlait aussi, on ne l'a pas dit, mais gestion du stress, esprit de déduction. Et on a fait, il y a une étude qui a prouvé que pour des gamins qui jouent au bridge, ça pouvait améliorer leur performance en mathématiques. Et réciproquement, c'est-à-dire que les bons en maths peuvent être bons en bridge. Mais vaut mieux retenir dans le sens où le bridge peut permettre de développer les performances en mathématiques. Et hors antenne, on parlait aussi d'autres choses qui peuvent s'appliquer à des gens plus âgés, c'est-à-dire aider à lutter contre Alzheimer ou ralentir peut-être la progression d'Alzheimer.
Oui, il y a plusieurs études qui ont été développées, en particulier aux États-Unis, qui ont fait la démonstration. Alors, il n'y a pas que le bridge, mais c'est toute activité intellectuelle soutenue,
cérébrale,
permet de gagner du temps sur l'emprise d'Alzheimer sur les personnes âgées. Mais il y a d'autres formes de bridge, le bridge virtuel qui aujourd'hui gagne beaucoup de terrain et qui permet deux choses. La première, c'est de pouvoir faire jouer les gens qui sont en activité, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe. Tout le monde peut jouer au bridge virtuel dans la mesure où vous pouvez commencer une partie à 20h, 21h, vous jouez à votre...
Il faut trouver juste des partenaires, tout ça c'est en ligne, comme le poker en ligne ou...
Il y a des sites spécialisés, vous branchez sur un site qui s'appelle Bridge Buzz Online, vous ouvrez, il y a 15 000 personnes qui vous attendent, quoi, tous les jours.
Trois suffiront.
Oui, mais vous avez le choix, parce qu'on avait... au moins 15 000 qui s'approchent.
Ouais. Il y a aussi des sites où vous pouvez jouer qu'avec des robots.
Oui.
Ah ben ça, c'est l'IA.
Ce qui permet éventuellement à une personne de ne pas chercher de partenaire et de s'améliorer. S'améliorer
seule. Oui,
déjà
techniquement. Techniquement. Et puis peut-être après de se lancer. Alors, à quel âge on peut commencer le bridge?
On commence le bridge à partir de 6-7 ans dans les écoles primaires. Mmh. Et la Fédération française de bridge a développé des outils dans ce sens. Il s'agit d'un petit bridge. C'est le même nombre de cartes que le bridge réel, sauf que ça ressemble à un jeu des sept familles. Et les gamins doivent simplement retenir que la plus petite c'est le 1, la plus grande c'est le 10, et ils ont des dessins, enfin c'est des cartes qui sont coloriées, ça n'a rien à voir avec un jeu de cartes classique, mais ça...
Adapté aux petits de 6-7 ans,
c'est
oui.
C'est adapté aux petits de 6-7 ans.
Je vais mettre un petit bémol, nous l'utilisons, nous, avec les gens qui n'ont jamais touché une carte de leur vie. Donc on a eu actuellement des gens en formation, depuis nos différentes opérations de promotion, et ces jeunes joueurs qui vont de 14 ans, parce qu'on a de 14 ans. 97, on n'a pas, mais on a quand même quelques personnes. Et donc, si vous voulez, ils utilisent au départ...
Le petit bridge.
Le petit bridge.
Donc, il se présente, je l'ai sous les yeux, là, sous forme, oui, c'est ça, comme un jeu des sept familles, ça s'appelle le petit bridge, et il y a une version anglaise,
il y a aussi une version française. Ça connaît un tel succès en France que la Fédération mondiale nous a demandé si on ne pouvait pas le traduire en anglais, donc on a...
Ah, c'est la Fédération française qui l'a créé?
Ah oui, c'est une création de la Fédération française. Et aujourd'hui, nous l'avons traduit pour les autres fédérations mondiales, à l'initiative de la Fédération mondiale et de la Fédération européenne de bridge.
D'accord, donc ça permet quand même une initiation pour les plus petits, donc on peut commencer à 6-7 ans,
alors,
vous disiez.
En fait, c'est une initiation pour les débutants.
Non, mais c'est quand même adapté à des petits, mais effectivement.
L'imagerie est totalement adaptée pour les petits, quoi. C'est le jeu de cette famille.
On n'a pas dit petits joueurs.
Et une autre vertu du bridge virtuel, c'est que on voit très régulièrement des jeunes qui démarrent le bridge à l'université. Parce qu'il y a quelques temps morts parfois, donc
il y a toujours quelqu'un.
Il y a toujours quelqu'un qui a un jeu de cartes dans la poche, donc on jouait au bridge et on continue à jouer au bridge à l'université. Le seul problème, c'est que tous ces jeunes qui ont en général beaucoup de talent et facilité à apprendre, eh bien, ils se dispersent pour des raisons d'études, parce qu'il y a des stages à l'étranger, des stages en entreprise.
Oui, donc voilà. Du coup, le côté virtuel permet de continuer
plus,
à jouer.
Plus la vie en entreprise qui démarre. Et ces gens-là continueraient bien à jouer au bridge avec leurs copains. Ils ne pouvaient pas le faire avant. Mm-hmm. Maintenant, avec le bridge
là,
en
c'est
ligne,
pratique, ouais.
ils ne se quittent plus et continuent à jouer, ce qui fait qu'on a des performances extraordinaires dans pas mal de championnats internationaux.
Ça,
avec
j'ai cru
jeunes.
Comprendre. Mais surtout les femmes. Surtout les femmes.
Pour compléter, je vais quand même citer pour la fédération, la création de Real Bridge, qui est un outil utilisable justement virtuellement et qui permet, lorsqu'on joue, de voir son partenaire.
Et ses adversaires.
Si vous voulez, c'est comme si vous étiez à la table. Le côté convivial.
C'est bien parce qu'il y a le côté aussi.
Convivial.
Convivial, mais il n'y a pas que ça. Il y a le non-dit. Vous savez, quand vous avez des partenaires, vous avez aussi les regards, l'attitude.
Ça, c'est interdit au bridge.
Voilà. C'est interdit, mince.
D'ailleurs, dans les vrais.
Mais comment on peut interdire ça quand vous êtes à une table?
C'est très simple, je vais vous le dire.
Allez-y.
Techniquement, vous ne voyez pas votre partenaire et vous ne voyez qu'un des deux adversaires. Parce qu'il y a un écran qui traverse la table.
Ah, d'accord.
Et il y a un petit guichet et les enchères passent sur un petit plateau.
Ah, c'est pas le poker. Au poker, on dit que c'est le non-verbal compte beaucoup. Donc là, on peut pas s'appuyer sur le non-verbal.
Bon. Et dans Real Bridge, qui n'a pas été invité, qui n'a pas été inventé par la Fédération française de bridge, mais par des Anglais.
Non, moi, ça fait rien.
On aurait aimé, mais c'est pas nous. Les robots sont capables de savoir qui a hésité. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'hésiter, parce que hésiter trop longuement sur des séquences d'enchères apporte des informations à son partenaire.
D'accord.
Donc on n'a pas le droit d'hésiter.
Mais il n'y a pas ce côté quand même face à face où on observe ses partenaires. Enfin, je vois ça dans les films, par exemple, avec le poker, où les gens s'observent, ont des tics. Mais ça joue, le non-verbal joue beaucoup.
Mais quand on fait nos tournois normaux, parce que là, on parle un peu de compétition,
mais
quand on
loisir.
Fait des tournois, on va dire le loisir, des tournois comme on fait les mardis et vendredis à Chalon.
Je vais vous poser des questions pour avoir plus de détails sur le fonctionnement.
Il est sûr qu'on a nos partenaires et nos adversaires en tête-à-tête, c'est très convivial. On est un petit peu loin du côté
de
compétition avec les écosses qu'on appelle les écrans. Mais bon, c'est une partie du bridge. Y a les compétiteurs, ils tirent les bridgeurs vers le haut.
Une question annexe, on va dire anecdotique peut-être, mais on a reçu le club d'échecs il y a quelques semaines, l'échiquier chalonnais. Il y a un facteur temps aux échecs. Est-ce que ça existe également au bridge?
Oui, il y en a un,
absolument.
Mais pas dans le même sens.
Ouais. Absolument. C'est-à-dire que quand on parlait de la gestion du temps et la gestion du stress, au bridge, vous avez une partie, elle dure 7 minutes. Entre une première. Oui. Cette partie se décompose, comme on l'a dit, en des annonces pour essayer de trouver le meilleur contrat. Et après, il y a le jeu de la carte. Celui qui a remporté le contrat, il joue. Cet ensemble, c'est de l'ordre de 7 minutes.
Pas plus.
Voilà, pas plus. Ce qui veut dire que entre.
Oui, c'est assez contraint quand même.
Vous êtes. Bah oui,
beaucoup plus qu'aux échecs. Oui. Parce qu'aux échecs, c'est pas pareil. Donc là, ça permet aussi d'apprendre. On parlait des compétences développées chez les jeunes ou moins jeunes qui se mettent au bridge. Je pensais surtout aux scolaires parce que c'est là où on leur demande quand même de développer un certain nombre de compétences. La gestion du temps, du coup, rentre en jeu là.
Absolument.
Alors concrètement, comment ça se passe par exemple à Chalon? Vous avez beaucoup de licenciés, d'adhérents?
Alors,
Et des champions.
Attends, on va déjà aller dans l'ordre.
Je vais essayer de retenir, parce qu'à mon âge, Alzheimer, ça existe quand même.
Ah non, mais non, vous êtes joueur de bridge. Donc ça va.
Donc en fait, nous avons, on va dire, entre 60 et 70 adhérents. Bon, là, je suis les gens viennent de se réinscrire. Mm-hmm. Théoriquement, c'est au 1er juillet, mais dans la réalité, ça
dure un certain.
Alors, nous avons 60 ou 70 adhérents, mais par contre, nous avons des gens qui sont en instance d'adhérer, parce que c'est quand même un jeu où il faut apprendre. Mm. Il faut avoir envie d'apprendre, puis il ne faut pas se décourager. La première année, chez nous, on les prend en charge.
Il y a des cours, en fait. Alors, il y a des horaires.
Il y a des cours en fonction des niveaux. Nous avons des cours, effectivement, pour des gens qui sont un petit peu aguerris, des cours, initiateurs. Nous avons des cours aussi avec un professeur attitré. Et nous avons surtout, et c'est ça ce que je défends, une petite équipe qui travaillent avec des gens qui n'ont jamais touché des cartes et qui les amènent au bridge. Et ça ils font un travail, parce que c'est pas aussi évident que ça. Et cette année, nous avons, on va dire, à peu près entre 10 et 15 personnes qui viennent le jeudi soir s'initier au bridge. Mais ça commence par le petit bridge, j'allais dire à la bataille.
Le fameux jeu dont on vient de parler.
Le fameux jeu dont vous parliez tout à l'heure. Et donc ça, c'est un... Là, on travaille, j'allais dire, c'est un travail de fond. Mm. Les bridgeurs qui ont déjà joué, etc., évidemment que nous les accueillons, mais c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il suffit qu'ils viennent à une table, qu'ils aient envie de nous rencontrer. Mm. On fait nos petites animations, par exemple le Beaujolais, par exemple Noël.
Et on va en parler un petit peu après.
Donc si vous voulez, ça c'est, je ne vais pas dire que c'est facile, mais... C'est une population qui est facile à jouer au bridge.
Bah, qui est déjà un peu captive, voilà. alors que les autres,
ils n'ont jamais touché une carte. Et ça prend à peu près entre 3 et 5 mois. Ils peuvent se décourager. Faut dire que...
Mais comme pour tout. Enfin, je veux dire, tout sport cérébral ou physique demande des efforts et de l'entraînement régulier.
Voilà, ça demande un petit effort.
Seul, même quand on veut faire, je sais pas moi, n'importe quoi, même à l'école, il y a forcément un apprentissage qui prend du temps. Et...
Absolument.
Et c'est pour cette raison que la Fédération française de bridge offre la première année. On ne demande pas...
Pas de cotisation, pas de...
Voilà.
D'accord, donc ça c'est bon à savoir aussi, oui. C'est vraiment...
Nous aussi, hein, donc par voie de conséquence.
Oui, du coup, voilà. Donc vous êtes vous alignez sur la Fédération française.
Et vice-versa.
Et vice-versa, d'accord. Alors justement, donc à partir... Alain demandait, mais il avait un peu mis les bœufs avant la charrue, ou la charrue avant les bœufs.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des champions qui venaient du club de Chalon ou des championnes, hein, puisque...
Ah, on a des championnes, alors si on parle champion de France, si on parle champion du monde, je vais dire non. Par contre, on a des gens qui sont...
Distingués.
Qui sont bien classés. Si, on a eu des gens qui sont bien classés.
Voilà.
Bon, je ne vais pas parler de moi.
Pas vous ?
Ma meilleure performance, c'est 3e au niveau national. Dans ma catégorie de l'époque, dont je ne me souviens plus. Mais il y a eu quand même
Il y a plusieurs niveaux.
Il y a beaucoup de niveaux.
Il y a beaucoup de niveaux, voilà.
C'est-à-dire, vous avez les cadets, et c'est comme plein de sports.
L'âge n'intervient pas dans le niveau. Néanmoins, il y a quand même des compétitions de jeunes, de juniors, etc. Mais quel que soit le niveau. Et sinon, il y a effectivement, les 80 000 joueurs sont découpés par morceaux et il y a des...
Par catégorie, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a les débutants, il y a les moins débutants, il y a les joueurs confirmés.
Les experts.
Ceux qui font déjà des compétitions.
Il y a d'ailleurs un groupe qui s'appelle
Experts. Et les experts. Quoi.
Le plus haut, ce sont les experts. Et
pour nous, au niveau de Chalon, le plus haut, c'est experts. On n'a pas beaucoup de gens qui sont allés au-delà. Parce qu'il y a des séries nationales. Mais experts, on a quand même quelques personnes qui sont classées experts. Il faut savoir que la fédération classe les joueurs. Les 77 000 joueurs sont classés. Ont un classement national.
D'accord.
Et donc après, dans ce classement national, par exemple, le 3000e, il doit se trouver en... Par exemple, 3000e... je suis en train de chercher, parce que... je suis en train de chercher mon classement de mémoire. Mais on est classé, donc, en performance, ou en expert, ou en challenge. Donc on fait des...
Challenge, c'est plus bas.
Oui.
D'accord.
Et puis il y a élite.
L'élite, oui, mais ça, voilà. Tout le monde ne peut pas. C'est le principe de l'élite, ils ne sont pas nombreux.
Voilà.
Sinon, ce n'est plus une élite.
Voilà. C'est des
nationaux. Vous cherchez. Alors, j'ai vu que vous faisiez aussi des manifestations. Donc, on a parlé tout à l'heure de la journée porte ouverte du 14 novembre au Collège Saint-Étienne. Là, c'est plus de venez découverte du bridge.
Oui.
Dans la soirée 17-20h. J'ai vu aussi que vous avez participé à la foire exposition, puisque j'avais personnellement assisté à votre conférence très intéressante. Le 20 novembre, vous faites un tournoi du Beaujolais. Ça, c'est rigolo.
Alors,
on boit pendant les tournois? Non.
Alors,
après. C'est là qu'on invite les femmes,
encore
c'est ça
que, encore qu'on a un petit peu innové cette année, nous allons faire un tournoi avant, parce qu'il faut tenir compte des adhérents et de leurs désirs. Il y en a qui peuvent venir l'après-midi, d'autres le soir, d'autres qui ne veulent plus sortir le soir. Enfin bon. Donc là, cette année, on a innové, on va faire un tournoi en après-midi, un break avec le Beaujolais et petit encas. Mm-hmm. Et un nouveau tournoi après.
D'accord, et ça se passe où? Dans vos locaux?
Dans nos locaux.
Complexe Gérard Philippe.
Complexe Gérard Philippe, oui.
D'accord. Et sinon, j'ai vu aussi et ça, que le 6 décembre, vous participiez à l'opération pour le Téléthon à Carrefour, au centre commercial, c'est ça? Enfin, c'est ce que j'ai lu sur le site. Le 6 décembre, Téléthon 2025 à Carrefour.
On fait surtout un tournoi. Alors, le 6 décembre, oui, c'est... le vendredi, parce que je vois que j'ai... Le vendredi, donc on va participer au Téléthon, mais le vendredi, on fait un tournoi...
Donc le 5
c'est ça,
c'est ça, je suis sûr.
Pour le Téléthon, c'est-à-dire les recettes de ce tournoi sont versées au Téléthon.
Ce qui est quand même...
Ça fait... alors, depuis que la Fédération française avait lancé ça, donc on a toujours suivi. Par contre, la Fédération a décidé depuis 2 ans, je crois, d'arrêter. Et nous continuons depuis 2 ans à... alimenter modestement.
Oui, mais bon, il y a beaucoup d'associations qui font ça. Et
voilà,
ça...
absolument, nous ne sommes pas les seuls.
Oui, oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça fait partie des valeurs des associations, un petit peu quand même. Voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, puisqu'il nous reste 3 minutes?
Ou un message.
Un message, ou peut-être des choses dont on n'a pas parlé? Je crois qu'on a fait un peu le tour.
On n'a pas parlé d'une autre fonction de... Des clubs, hein. Ce sont des sites de rencontres aussi, il faut bien dire.
Eh ben, je vais y aller, moi, c'est quand le prochain cours?
Cet après-midi.
Ah, je peux pas.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de...
Oui, ben, jeudi pour l'initiation.
Il y a beaucoup de couples qui se créent...
Mais comme dans plein de cercles de jeux ou d'associations, c'est aussi... des lieux de socialisation.
De socialisation.
Hein, et de rencontres pour des gens qui sont un peu seuls. Enfin, c'est peut-être pas la motivation principale, mais ça peut en être une. Oui. Donc, c'est bien de rajouter ça. Donc, site de rencontre. Donc, vous pouvez aller au complexe Gérard Philippe. Ok. Donc, peut-être un petit. Allez-y, pardon.
Et il y a un dernier point qui est pour moi vraiment extraordinaire, c'est que c'est un jeu intergénérationnel. On voit très rapidement, ça marche dans les deux sens, on voit très rapidement des gamins qui amènent leurs parents et leurs grands-parents au bridge.
Mmh.
Parce qu'en fait, ils ne parlent pas de ce qu'ils font à l'école, sauf du bridge, parce que c'est tellement bizarre.
Et puis c'est un jeu, c'est pas l'école.
C'est pas l'école. Donc ils en parlent aux parents, et les parents sont quand même intrigués, donc à l'occasion d'un
tournoi ou d'un cours.
Non, d'une réunion, parce qu'il y a des réunions entre... les enseignants et les parents de temps en temps.
Ah oui, d'accord.
Ils en parlent et ça a amené parfois à la création de clubs dédiés parents, enfants, hors cours.
Plus, ça leur permet de jouer en famille, c'est aussi.
Exactement. Et sinon, c'est les grands-parents qui initient aussi leurs enfants au bridge parce que eux, ils ont compris quel était l'intérêt du bridge. Et du coup, ils souhaitent amener leurs petits-enfants dans ce cercle.
Ouais, ce qui est quand même, ce sont quand même des éléments qui peuvent motiver les gens à rejoindre. Donc, on rappelle rapidement, on peut s'initier, même si on n'a jamais touché une carte de sa vie. Le jeudi, il y a des cours, si je puis dire.
À 18h30
à Chalon. C'est ouvert aux filles, aux garçons, aux hommes et aux femmes, on est d'accord.
Et puis aux gens de 7 à 77 ans.
D'accord.
Nous avons même eu, je le cite, un petit de 18 mois qui vient avec sa maman.
Oui, enfin lui, je pense qu'il regarde pour l'instant.
Ah, oui, il regarde, mais il regarde les cartes.
Ben, oui, évidemment. Oui.
Ça l'amuse.
D'accord. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Vous, l'adhésion, bon, la première année est gratuite, et sinon, le montant de l'adhésion, c'est
alors,
combien?
Chez nous, c'est 52 euros à l'année,
ouais, ça
actuellement.
Va. C'est pas...
Et ah bon, après, il y a l'adhésion à la fédération.
Fédération française.
Alors, si on ajoute l'adhésion à la fédération française, ça fait 108 euros.
Oui, c'est pas voilà. Par rapport à donc, plein de clubs, c'est
ça veut dire 56, quoi, pour le...
voilà.
En fait, chaque comité, après, est libre de sa politique oui. financière. Donc, il y a une cotisation de base fédérale. Mmh. Et oui. puis après, les comités rajoutent oui. quelques dizaines d'euros pour leur fonctionnement propre.
Donc, on arrive à la fin de l'émission. On va se quitter là. Je vous remercie, messieurs, d'être venus à Radio Mono pour cette émission.
Ah, c'est nous
et
qui
je
vous remercions.
Et oui. je rappelle aux auditeurs et auditrices que la semaine prochaine, l'émission sera rediffusée tous les jours, bien sûr, mais aussi mise sur le site. Le podcast sera sur le site et accessible et téléchargeable. Voilà. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, Chantal.